On va enchaîner directement avec l'intervention de Justine Feyerhazen, qui s'intitule « Tropique de la violence ». Justine est docteur en langue, lettres et traductologie à l'Université libre de Bruxelles, ainsi qu'en lettres et arts de l'Université Grenoble-Alpes, et elle est aussi un Fulbright alumna de Berkeley. Elle occupe actuellement le poste de maître de langue à l'Université libre de Bruxelles, où elle poursuit ses recherches sur les utopies cosmopolitiques formulées par les écrivains du début du XXIe siècle, dans le contexte de l'actuelle crise migratoire vers l'Europe.
Alors, je vais faire directement le lien avec ce que tu viens de dire, Nicolas, par rapport à la dialectique personnage-paysage, qui est le fil rouge de mes recherches depuis le début de ma thèse. Et à vrai dire, je m'en rends compte maintenant, une petite épiphanie en me disant « mais oui, peut-être que tout ce que je fais jusqu'à présent va dans ce sens ». Je ne sais pas encore vraiment pourquoi, mais bref, je vais vous emmener à l'antipode, aux antipodes de ce qu'on vient de voir actuellement, c'est-à-dire je vais vous emmener dans l'océan Indien. Et je vais m'intéresser non pas à aimer la ville, mais plutôt à un rapport conflictuel avec la ville. C'est-à-dire que je vais vous parler de deux romans contemporains qui mettent en scène les affects suscités par les espaces insulaires. Ces deux romans, il s'agit de d'Ève de ses décombres, paru en 2006 d'Ananda Devi, et Tropique de la violence, paru 10 ans plus tard, Tropique de la violence de Natasha Apana, donc deux écrivaines mauriciennes, l'une qui a écrit sur Maurice, Ève de ses décombres, et l'autre sur Mayotte, après avoir vécu sa propre expérience pendant plusieurs mois à Mayotte, qui est Natasha Apana. Ces textes se ressemblent parce que ce sont des textes polyphoniques, et je reviendrai là-dessus puisque ça a son importance, des textes polyphoniques qui dépeignent des paysages à la beauté paradisiaque, hein, l'île Maurice, Mayotte, a priori ça fait rêver, et ces paysages se révèlent de véritables poudrières pour une jeunesse clandestine, livrée à elle-même, une jeunesse qui est héritière de la traite, héritière d'esclaves, de réfugiés, de cyclones, des enfants donc terribles, les enfants terribles, des zones grises, comme on les appelle, les zones grises de Maurice et de Mayotte, des enfants qui sont donc porteurs d'une histoire avec un grand H. Alors, cette brutalité, leur terre les y confronte quotidiennement, et au point de nouer avec eux une relation tiraillée, qui va nous occuper ici, une relation tiraillée entre haine dévorante et amour inconditionnel. À partir de ces deux textes, je me suis posé une série de questions que je vous montre ici. Est-ce que l'origine des actes cruels qu'ils commettent est à chercher du côté des émotions ? Est-ce que ces émotions, ces passions sont d'autant plus exacerbées qu'elles s'adressent à un autre, avec un grand A, dans un contexte multiculturel ? Est-ce que la rencontre des cultures dans des espaces aussi exigus qu'isolés, même géopolitiquement isolée, va favoriser justement ces émotions. Et donc, en d'autres termes, est-ce que ces états, les états affectifs qu'on retrouve dans ces romans, sont induits, orchestrés, définis et légitimés par les lieux où ils s'expriment ? Alors, j'ai formulé une hypothèse, qui est celle que tu as reprise là maintenant, c'est que ces deux écrivaines mauriciennes articulent sujet et espace au point que la mutation de l'un entraîne la mutation de l'autre. Pour tester cette hypothèse, je vais mettre en place une analyse textuelle que je vais essayer de partager avec vous, qui utilise donc les outils de la stylistique et de la rhétorique. L'exposé aura lieu en 4 temps, que je vais exposer maintenant. Donc, dans un premier temps, je vais déjà recontextualiser un peu la notion d'espace, puisqu'on en a beaucoup parlé, espace, lieu. Je vais faire référence au Special Turn des années 80, au cours duquel sont parues énormément d'études de tout point de vue sur l'espace, partant des travaux d'Henri Lefebvre, qu'on a déjà cité à 2 reprises, ou encore de Michel Foucault. Et ces études ont eu une lecture particulière au tournant du siècle dans le cadre de la postcolonialité, des études, donc des théories postcoloniales. Et c'est dans ce contexte-là que l'on se situe. Alors, je vais partir d'un concept spatial qui est celui de Michel Foucault, qui se retrouve chez Ananda Devi et Natasha Appana sous une autre lecture, qui est le concept de la ville carcérale. Alors, Foucault, dans « Surveiller et punir », conclut sur cette notion de ville carcérale. Mais cette notion reste de l'ordre de la métaphore, c'est-à-dire que la ville carcérale est pour Foucault un réseau multiple d'éléments divers, murs, espaces, institutions, règles, discours, qui intervient dans la production et le maintien d'un ordre disciplinaire. La prison, donc, y apparaît ici non pas matériellement, mais liée à toute une série donc, de dispositifs, d'autres dispositifs carcéraux qui tendent à exercer un pouvoir de normalisation. Donc le philosophe s'attardait, n'explicitait pas la dimension urbaine du dispositif décrit, cela restait de l'ordre de la métaphore. Et la métaphore devient textuelle ici, prend une autre dimension sous la plume d'Ananda Devi et de Natasha Appana. Alors pourquoi ? Parce que, déjà, si on part de cette référence, donc j'ai mis ED pour F de ses décombres, et TV pour Tropique de la violence, comme ça vous vous y retrouvez. Si on part déjà de cette petite phrase, ils feront de Troumaron notre prison, notre camp, Troumaron étant le bidonville de Maurice, un bidonville de Port-Louis, où se trouvent les jeunes de l'histoire. Alors ici, les limites géographiques de l'île, puisqu'il s'agit de deux îles, ne sont pas les seules bornes qui encerclent une jeunesse socialement précarisée et ethniquement discriminée. À celle-ci s'ajoutent les frontières de la misère sociale et l'éloignement de l'État, voire de la métropole, siège du pouvoir géopolitique. Cette isolation accule, confine les mineurs des rues jusqu'à la claustrophobie. Port-Louis vole quelque chose en moi, trop de gens, trop de voitures, trop de buildings, etc. Et les textes vont donc développer une violence couvée par une insularité triple, exiguïté spatiale, isolement social et distance politique. Alors, pour ces écrivaines, le lieu écrit l'histoire. Et cette histoire est inextricablement tragique et violente quand il s'agit d'île. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les écrivaines lient violence et île. Je cite ici Natasha Appana, du fait que l'île est un radeau qui nous protège de la noyade et en même temps un lieu d'enfermement. On retrouve donc ça dans le texte. Nous sommes pratiquement des enfants assis sur notre parapet, et elle, sa fleur de violence sur la joue, se sent vieille. C'est l'endroit qui nous a fait ainsi, ou le contraire, se demande l'un des jeunes. Alors, je vais repartir de la définition d'Henri Lefebvre de l'espace urbain. Henri Lefebvre dit que l'espace est produit par l'intervention répétée d'habitants aux intérêts multiples. Et c'est cela qui peut engendrer des conflits. Ici, c'est l'inverse, c'est l'espace qui produit. Et ça se retrouve dans les descriptions, parce que l'on a affaire à des descriptions anthropomorphiques s'agissant de la ville. C'est-à-dire que la ville devient le sujet de métaphores. Par exemple, je suis arrivée tout à la fin, pardon. Je recommence. La ville arbore le visage adouci de ses tumultes, tout en vert, en bleu et en orangé. La ville donc devient le sujet d'une personnification, et en même temps tous ces éléments deviennent métonymiques puisqu'ils représentent le pouvoir. Ce n'est pas vraiment la ville qui agit, mais par métonymie, le pouvoir. Par exemple, la deuxième, les immeubles, condamnent à mort tous ceux qui y naissent. Donc par métonymie, on parle ici d'un pouvoir qui plus est, jamais nommé. Et cette personnification est importante puisque l'île devient un personnage en soi. Alors, un autre élément pour retomber sur Foucault est que cette ville amène une tension panoptique. Permanente, il braque son œil noir sur les méfaits des enfants de Troumaron et invite les autres citoyens à observer depuis leurs fenêtres le spectacle. Je renvoie ici aux travaux de Guy Debord. Donc cette ouverture à tous les regards leur rappelle constamment aux jeunes leur confinement et leur exclusion du point de vue de la structure sociale. Et cette mise à l'écart territorial crée en retour des collectifs marquées du sceau de l'ineffable, sans identité, desquelles naissent des communautés. La communauté, par exemple, des non-appartenants. Ici, on se construit une identité par défaut, celle des non-appartenants. On nous appelle Ban Troumaron, les Troumarans, comme s'il s'agissait d'une nouvelle communauté dans cette île qui en a déjà tellement. Peut-être, effectivement, le sommes-nous. Donc on retrouve des groupes sociaux qui ne sont pas définis, identifiés par l'État, puisqu'ils sont sans papier d'identité, que ce soit à Maurice ou à Mayotte, il s'agit de sans-papiers, donc qui sont d'ici sans être d'ici également. Donc on se retrouve face à une notion de non-être. Le lieu qui, normalement, doit leur servir de refuge, les bidonvilles au départ, ces deux bidonvilles sont créés comme étant des refuges, des lieux où les jeunes peuvent se retrouver et s'épanouir, deviennent au contraire des ghettos où l'identité se perd. Alors il y a une tierce identité qui se crée, qui est celle des non-appartenants de manière paradoxale. Alors cette ghettoisation de la ville aussi passe par le nom qui lui est attribué. Je vous ai parlé de Troumaron, je peux aussi vous parler de Gaza. Gaza est donc ce bidonville qui a été surnommé en tant que tel le bidonville de Mayotte, dans Tropique de la violence. Se pose la question alors du nom, du toponyme. Est-ce que si cette personne avait rebaptisé ce quartier avec un nom doux, un nom sans guerre, un nom sans enfants morts, est-ce que ça aurait changé le destin et l'esprit des gens ici ? Cela renvoie alors à cette notion, à ce principe cratilique du nomen est onem, c'est-à-dire le nom a valeur de destin. Puisqu'il y a ce nom, j'aurai ce destin-là. Je vous parle de ce nom aussi parce qu'il va syncrétiser toutes sortes d'émotions liées au lieu. Et ce, dans la bouche d'un policier français issu de la métropole, qui assiste à toute cette violence dans Tropique de la violence. Et je vais m'attarder quelques minutes sur cette référence. Donc c'est Olivier, le flic, comme on l'appelle. Je ne sais pas qui a surnommé ainsi le quartier défavorisé de Kaweni à la lisière de Mamoudzou, mais il a visé juste. Gaza, c'est un bidonville, c'est un ghetto, un dépotoir, un gouffre, une favela, c'est un immense camp de clandestins à ciel ouvert, c'est une énorme poubelle fumante que l'on voit de loin. Gaza, c'est un no man's land violent, où les bandes de gamins shootés aux chimiques font la loi. Gaza, c'est Cape Town, c'est Calcutta, c'est Rio. Gaza, c'est Mayotte, Gaza, c'est la France. Je vais m'amuser, puisque j'aime beaucoup ça, à déconstruire avec vous, d'un point de vue rhétorique, cette intervention, en relevant les diverses figures pathiques. C'est-à-dire que l'on est face ici à un événement de colère. La colère est cette fracture, une fracture qui fait que le discours sort de manière très naturelle, très spontanée. On a affaire donc à l'indignation du policier devant la violence qui détruit la jeunesse du 101e département français et qui suscite chez lui ce monologue intérieur viscéral aux allures de pamphlet. Et c'est un pamphlet qui est, d'un point de vue stylistique, très bien construit. Et je vais vous expliquer pourquoi. On y retrouve toutes sortes de figures pathiques qui vont expliquer la manière dont ces émotions se traduisent par le langage. C'est-à-dire que au niveau de la pathémisation du discours, on retrouve une tension discursive par des hyperboles. C'est une énorme poubelle fumante que l'on voit de loin. Et cette maximalisation énergétique du discours s'accentue aussi par l'anaphore rhétorique. Gaza, c'est. En même temps, on assiste à une sorte de parallèle. Oh, vous le voyez en très petit, il fallait me le dire. Une sorte de parallèle entre les deux dernières phrases qui est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a une vectorisation péjorante du discours. On passe de bidonville, ghetto, dépotoir, favela à no man's land, d'une part. De l'autre côté, on passe de Cape Town à la France. Il y a une sorte de parallèle négatif alors qui s'opère entre les deux, d'antithèse, qui nous pousse à y lire de l'ironie. Puisque l'on a où les bandes de gamins shootés aux chimiques font la loi avec Gaza c'est la France, le parallèle du discours fait que les deux fins de phrase se retrouvent au même plan. Il y a en même temps une dislocation syntaxique qui montre cet effet de colère, c'est-à-dire il y a une répétition syntaxique de l'hyperbate. A égale ça, A c'est B, Gaza c'est cela, A c'est B. Et en même temps, une ponctuation qui est aléatoire et une désynchronisation du discours. De même, l'image est très prenante. On a affaire ici à une hypotypose. Voilà la manière dont les figures pathiques vont traduire cet élan de colère, cette indignation, et montrer le message qu'il y a derrière cela. Alors, cela pourrait susciter chez vous de l'empathie, peut-être. D'ailleurs, c'est ce que le flic cherche à faire par cette expression fatigue, n'est-ce pas, à la fin de son intervention, que je ne lis pas, mais juste ici, à la toute fin. Et pourtant, encore faudrait-il qu'il soit écouté. C'est ce que vous avez juste après, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Je ne suis qu'un flic qui applique la loi française sur une île oubliée. Et cette amère remarque, m'a fait penser à ce qu'a dit l'historien François Cusset, qui vient tout juste de publier un livre sur la violence, sur les formes contemporaines de la violence, quand il dit que le déni de violence commence lorsque la sensibilité susceptible de l'éprouver n'est simplement plus disponible, qu'elle s'est absentée. Néanmoins, pourquoi est-ce que je me suis amusée à déconstruire cela avec vous ? C'est que l'on montre ici une figure d'altérité, c'est-à-dire que le flic, par cette rupture, par cette colère, va avoir un discours de vérité qui, en même temps, va montrer la multiplicité de ce qui est en jeu et la multiplicité aussi de sa pensée. Et cette altérité, elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est mis en place dans les deux textes. Ce sont des textes, comme je vous l'ai dit au tout début, polyphoniques, c'est-à-dire que chaque chapitre constitue une voix qui lui est propre. Déjà, d'une part. D'autre part, je vais accélérer à ce niveau-là, c'est qu'il y a un discours endophasique. Le personnage se parle à lui-même. Il se parle en « je », en « tu », en « eu », en « il », en « nous ». Et ça, c'est aussi important dans le contexte postcolonial dans lequel nous sommes. On peut penser à ce moment-là aux identités meurtrières dont a parlé Mahalouf, ou encore aux identités fétiches qui vont déconstruire cette sorte de, pas de schizophrénie, puisque ce serait un terme psychanalytique qui serait dépassée, mais cette multiplicité, en tout cas, des identités. Par exemple, ici, vous avez ce discours du jeune homme qui va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis uniquement parce que c'est un mauvais garçon de trou marron. Il faut me croire, de là où je vous parle, les mensonges, les faux-semblants... c'est pas celui-là. Et donc, moi, je suis beyond redemption, et le meurtre, on me le colle sans me dire s'il vous plaît, sans preuves apparentes. Je suis coupable d'être moi, je suis coupable d'être, et il me bouscule. Et il me tape sur la nuque en disant « Tu vas parler, Tim Macro. » Et s'il le faut, ils me tabasseront sans en avoir l'air. Et en plus, ça deviendra une histoire communale. Ça peut pas louper. Même si Savita, la jeune fille qui a été assassinée, elle se moquait de ces histoires de race. Quand elle est morte, elle devient un symbole racial. Et moi aussi, des siècles à être ennemie, esclave, coulisse, c'est une lourde histoire, n'empêche. Et à chaque occasion, elle refait surface. Des siècles que ça dure. Et c'est pas prêt de finir. Croyez-moi, même si nous, les enfants de trous marrons, nous nous en fichons des religions, des races, des couleurs, des castes, de tout ce qui divise le reste des gens de ce foutu pays, nous, les enfants de trous marrons, nous sommes d'une seule communauté qui est universelle, celle des pauvres et des paumés. Et là, croyez-moi, c'est la seule identité qui compte. Alors pourquoi est-ce que je vous ai beaucoup parlé d'identité, de multiplicité, alors que le sujet, n'est-ce pas, ce serait le lieu ? Puis ça m'amène donc à la conclusion de mon intervention, qui sera donc la pathémique du lieu. Le fait de montrer que par la passion, par l'expression de la colère, il y a cet autre en soi, l'autre que l'on est à soi-même et pour les autres est important dans le contexte d'une œuvre postcoloniale. Cette altérité ne peut avoir que des résonances dans une œuvre de rupture en quête d'une expression susceptible de traduire des expériences de vie multiples. Alors, faute de trouver une issue politique, puisque ces jeunes n'arrivent pas, d'ailleurs, quand je vous ai dit que la ville était personnifiée et que par métonymie on parlait du pouvoir, le pouvoir n'est jamais identifié. Ce n'est que le flic qui a un point de vue extérieur, même dans les deux romans, qui pourra se permettre de dire que la France n'intervient pas. Mais au niveau du discours, sinon ça ne passe pas. Et donc il n'y a pas une colère qui s'exprime vis-à-vis du politique quel qu'il soit. Elle s'exprime de manière aléatoire, de manière nerveuse. De manière nerveuse à travers cette île. Comme on dit ici, cette île, Bruce, nous a transformés en chiens. Ce pays nous broie, ce pays fait de nous des êtres malfaisants, ce pays nous enferme entre ses tenailles et nous ne pouvons plus partir, d'où l'importance de la personnification. Alors, leur réaction est à l'encontre de l'île et elle s'exprime sans objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prétexte pour que la violence ait lieu. Sentir les coups, donner des coups, éprouver la liberté de ma rage comme un vent acide qui me transperce et efface la mémoire. Alors, si on se réfère au philosophe qui s'est intéressé, philosophe slovène Žižek qui s'est intéressé à la violence, ces actes, ces passages à l'acte violent témoignent d'un certain antagonisme sous-jacent qui ne peut plus être formulé, qui ne peut plus être symbolisé en termes véritablement politiques. D'où la métaphore. Je ne sais pas si je peux faire un lien, mais la métaphore va alors servir à exprimer cette violence. Et c'est une métaphore de la prédation. Alors en quoi c'est intéressant, je m'en suis rendu compte un peu plus par la suite, dans le contexte postcolonial, c'est que la métaphore de la prédation, on la retrouve déjà dans les textes de Césaire. Et ce, dans le contexte du colonialisme. La prédation, les chacals, les chiens, ce sont les maîtres qui essayent de récupérer, récupérer les marrons, les esclaves qui se sont enfouis. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Ce pourquoi il y a une victime émissaire qui est incarnée par deux personnages, un personnage par roman, Ève, ça ne s'invente pas, le nom Ève, et Moïse, de l'autre côté. Je vous avais dit que les deux romans, on pouvait faire des liens de manière assez fréquente. Et je termine par là, par rapport à l'esclavage, c'est-à-dire que les motifs de violence donnent lieu à des métaphores explicitement liées à l'esclavage, pour dire les phénomènes d'oppression. On n'est plus dans un contexte d'esclavage, mais la métaphore va permettre de dénoncer des phénomènes métaphoriquement d'esclavage dans le contexte de globalisation, alors qu'en tant que tel, l'esclavage n'a plus lieu. Alors, tout cela va permettre de mettre à jour une temporalité postcoloniale telle qu'elle a été théorisée par Omi Baba, c'est-à-dire le refus des simples oppositions historicistes entre passé et présent au profit d'une perspective de la transition. En rendant le lien historique palpable, visible par la métaphore, ils ouvrent, surtout en filigrane, le champ de vision du travail de la mémoire. Et je conclus vraiment là-dessus. Quitte à recourir donc à la violence discursive, les auteurs, en dénonçant les servitudes d'aujourd'hui, ne sont pas sans exorciser les déchirures d'hier. Alors, je n'aimerais pas vous laisser sur cette touche si négative, c'est pourquoi j'ai réfléchi alors. Est-ce que l'image de la prison, l'île prison, recouverte par les émeutiers, puisque ça se termine très mal pour les deux victimes émissaires qui attendent tout simplement de se faire massacrer ou qui choisissent le suicide. Donc, les deux romans se terminent sur un fatalisme autodestructeur. Donc, est-ce que l'image de l'île prison ne permet aucune perspective émancipatrice ? Alors, c'est là que je me suis tournée vers la géocritique et les propos de Bertrand Westphal dans son dernier essai, où il dit qu'il faudrait interroger l'avenir en sortant du cadre spatio-temporel imposé par le modèle global, qui est aussi ici dénoncé, en renonçant à l'idée de centre, afin de laisser émerger ses potentialités. D'où l'intérêt de se tourner vers des littératures archipéliques, des littératures provenant des archipels des îles. Les îles, donc, selon Westphal, seraient alors la métaphore des liaisons possibles pour offrir à chacun l'image d'un environnement fluide. Les archipels qu'elles forment permettraient-ils alors de ne plus prétendre faire de l'autre un double de soi-même, mais plutôt de faire connaissance ? On ne penserait plus donc centre, périphérie, mais archipel, ce qui permettrait non seulement de réfléchir à l'autre, non pas comme son miroir ou comme devant être son miroir, mais pour ce qu'il est, et donc créer des liens de manière complètement différente. Et la littérature, puisque c'est aussi le titre de cette session, en facilitant le passage des imaginaires, serait donc peut-être, à mon sens, le moyen de tracer la topologie de la périphérie planétaire, d'identifier les connexions qui activeraient la carte d'un monde renouvelé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Justine. Je vais donner tout de suite la parole à la salle pour des questions. Si vous en avez tout de suite.
Du coup, je ne suis pas spécialiste de littérature, mais j'ai l'impression que quand vous dites c'est l'île qui nous rend comme ça, en même temps, l'île, c'est le même ça m'a fait penser, mais c'est une analogie qui n'est pas très intéressante, mais quand je suis dans un embouteillage, je suis forcément à cause des autres. En fait, en même temps, je suis la cause même partielle de cet embouteillage. Et je pense qu'il y a une absence de regard envers soi-même dans l'expression dans la recherche de l'expression de cette cause de la violence, elle est peut-être aussi en soi, il faudrait peut-être faire une analyse à deux échelles, spatiales ou sociales, pour avoir un regard plus complet. Par contre, la littérature a peut-être à dénoncer, on va dire, quelque chose d'un côté sans se préoccuper de l'autre. Ça, c'est en matière de littérature, ça va être possible, mais dans la réalité des faits sociaux, sur les îles, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est systématiquement masqué. De regard de soi-même, d'être soi-même la cause de son propre malheur.
Bien sûr. Alors, c'est ce que j'essayais aussi de montrer, c'est que ce ne sont pas nécessairement les victimes du lieu, ce n'est pas le lieu qui les façonne de cette façon-là. Le lieu a une influence. Le fait que ce soit insulaire, ça a une influence, puisque s'ils veulent partir, ils ne le peuvent pas. Et puis, il y a cette insularité dans l'insularité. C'est ce que j'essayais aussi de montrer. Mais en même temps, puisqu'ils ont un ressenti qui est un ressenti d'abandon qui se traduit par une violence, ils n'arrivent pas à trouver, en fait, de coupable. Et ils sont dans la recherche de ce coupable. Alors, ce coupable, c'est d'une part la victime émissaire, qui sera l'autre adolescent qui ne s'est pas comporté de la bonne manière, selon eux. Et alors, ce sera, dans leur discours, ce sera l'île qu'il personnifie pour la blâmer. Mais bien sûr, à d'autres échelles, ils sont aussi tout à fait responsables de ce qu'ils mettent en place. Je pense notamment au fonctionnement de Gaza, j'en ai très peu parlé, mais le fonctionnement de Gaza, au départ, c'était donc un endroit où les gens allaient... Et donc c'est un endroit qui existe, que Natacha Apana a visité, elle y a vécu tout un temps pour prendre le pouls. Et elle s'est rendue compte qu'au départ, c'était un lieu de villégiature, de vacances, de bonheur, etc. Et petit à petit, parce que c'était un endroit pratique pour les réfugiés, ce sont les enfants qui l'ont investi. Alors, au départ, en fait, ce sont des enfants qui sont transportés en kwassa-kwassa par leurs parents, qui vont juste déposer l'enfant, parce qu'ils n'ont pas d'identité, ils vont juste déposer l'enfant sur l'île, et ils s'en vont, puisque eux sont illégaux. Alors, ce sont des oncles, qui vont s'occuper de ces enfants jusque 13-14 ans, et à ce moment-là, il n'y a plus d'argent, le système scolaire est également défaillant, et les enfants se retrouvent dans la ville. Et c'est là que ça devient aussi intéressant, c'est qu'ils ont leur mode propre de fonctionner. Il y a un chef à Gaza, et c'est lui qui décide de tout. Donc il y a une sorte de petite ville dans la ville qui se crée, et il en est tout à fait responsable. Mais en même temps, il y a cette recherche de coupables ailleurs. Donc il y a une sorte aussi de victimisation qui serait intéressante à analyser. Bien sûr.
Oui, juste un petit mot, Diderbon. Pour autant que je comprenne et je n'ai pas lu les textes auxquels vous vous référez, je trouve cette démonstration fort intéressante et confirmer beaucoup de choses que moi j'essaye de faire en matière de prospective, c'est-à-dire de partir d'une part d'un diagnostic critique d'une situation mettant en évidence des tensions a priori insurmontables, et en allant regarder de la littérature, de l'art, d'autres types de pratiques, on peut trouver une manière de changer les logiques et de reformuler une question qui ouvre des pistes. Donc ce n'est pas du tout une littérature représentative, expressive, etc. Mais c'est une manière de faire un détour dans la mesure où l'activité artistique est en général en avance sur un certain nombre de possibilités, simplement ne le conceptualise pas. En tant que tel. Donc voilà, je me retrouve un peu là-dessus, travaillant aussi effectivement sur des problèmes de post-colonialisme et de, notamment avec sur le volontariat international et le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus parler dans ces termes et qu'il faut renouveler complètement les discours. Pour renouveler les discours, on ne peut pas le faire uniquement selon une procédure de scientifique, déductive, etc. Il faut aller se nourrir de choses qui sont un peu, et moi je définis la prospective comme une capacité d'intelligence collective permettant d'articuler des savoirs experts, des savoirs professionnels et des savoirs sensibles. Et là on voit bien que ça peut créer une dynamique permettant de dépasser des... Voilà, c'est juste un petit écho.
Oui, merci de votre intervention. C'est aussi la démarche que j'essaye de mettre en place. On en a déjà discuté. La première chose qu'on me pose quand on ne me connaît pas et qu'on ne connaît pas la recherche en littérature, on me dit « mais ça sert à quoi d'étudier la littérature ?» Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un fait social, quelque chose de problématique ou une tension, comme vous l'avez dit, et de voir ce que la littérature peut apporter comme regard là-dessus, par sa propre voix. Par sa voix propre. Alors, j'ai peut-être trois commentaires à faire là-dessus. Pour revenir à Natacha Apana, justement, elle est journaliste de formation, et donc elle s'est retrouvée sur l'île de Mayotte à plusieurs reprises, et on lui a donc posé la question, mais pourquoi n'en avez-vous pas fait des articles dans la presse, etc. Pourquoi en avoir fait un bouquin? Et elle a dit que le journalisme ne lui permettait pas d'aller au fond du problème. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu se permettre cette subjectivité dont elle avait besoin pour exprimer ce qu'elle avait vu et que ça ne lui aurait pas permis d'aller suffisamment en profondeur du problème. Donc elle s'est dit, alors je vais le remettre en scène par l'imaginaire, et un imaginaire qui est aussi fantastique, puisque dans le roman on retrouve un fantôme, il y a un fantôme qui parle de bout en bout. Alors on va dire que c'est imaginaire, et pourtant quand on connaît un peu l'île Maurice, le fantastique fait partie de la vie. Alors, ça, c'est la même chose à Haïti, l'imaginaire, le réel, la fiction, voilà, ce sont des populations qui ont un rapport totalement différent par rapport à ces questions. Alors voilà, la littérature lui permettait de témoigner. Alors je vais rebondir sur le témoignage, parce que je m'intéresse aussi à Jean-Marie Gustave Le Clézio, j'ai consacré une thèse à son œuvre, et on pose souvent la question à ce prix Nobel de littérature, mais alors à quoi ça sert la littérature? Et il répond, ça sert à témoigner. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, d'accord, est-ce que vos textes vont aider à faire avancer les choses? Est-ce que vous êtes un acteur du réel par rapport à la question migratoire sur laquelle il intervient régulièrement, par exemple? Et il dit, non, je ne suis pas un agent, je ne suis pas sur le terrain, mais je suis témoin. Et donc c'est ce témoignage-là qui va peut-être aider à éclairer différemment un problème. Et puis, ce qui est intéressant par rapport aux îles pour le témoignage, et c'est pour ça que Le Clézio s'y intéresse, Natacha Apana et Ananda Devi aussi, pas seulement parce qu'ils ont un attachement par rapport à l'île Maurice, parce qu'ils écrivent par ailleurs sur d'autres mêmes continents, l'île Maurice est considérée comme un laboratoire parce qu'il y a tellement de cultures différentes qui sont amenées à vivre ensemble que ça en devient très intéressant d'un point de vue ne fût-ce que sociologique. Et en même temps, avec ce passé d'esclavagisme. Alors, il y a quand même trois types de colonisation, trois grands types de colonisation à Maurice. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser aussi pour ces raisons-là.
C'est plutôt un commentaire. Je vous poussais un peu sur cette idée de trou marrant comme un no man's land. Donc, le no man's land comme une frontière qui n'en est pas une, qui bouge et qui n'appartient à personne et elle-même n'a pas de frontières bien définies, avec une correspondance avec cette polyphonie dont tu parles. Mm-hmm. Donc une sorte d'image en négatif du sujet polyphonique et du no man's land qui n'ont pas de frontières bien définies, qui ne sont pas capables de se constituer des frontières, des borderlines bien définies. Et en rapport avec peut-être ce que Christine a dit sur l'abject, qui est en même temps cette idée de fluidité des frontières et l'idée du château fort, l'isolation qu'on voit dans l'île. Et donc, c'est pas du tout pour contredire ce que tu dis, mais c'est peut-être pour renforcer, surtout quand on pense à une solution comme la littérature archipel qui met en contact, mm-hmm. justement, qui fait une frontière bien établie, mais qui permet de toucher quelqu'un d'autre. Mm-hmm.
Oui, je ne sais pas trop comment rebondir là-dessus. Par rapport à, je ne suis pas sûre d'avoir compris le lien que tu as voulu mettre en place entre le no man's land et la polyphonie.
Parce que dans les deux, et le sujet et le no man's land sont
multiples,
sans frontières bien définies. Donc la position subjective bouge, il n'est pas capable de s'établir un jeu avec les...
Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, je l'ai vu, on le voit dans ce texte-ci, on le voit dans d'autres textes contemporains. Le fait que la narration va montrer comment se passe la spatialité. Et c'est une spatialité qui se déroule par couches. Là encore, je me réfère aux travaux de Foucault, où on a cette superposition en fait, des strates. On a différentes strates qui se déroulent avec un rapport au temps qui est différent. C'est un rapport au temps qui ne sera pas dans la succession, mais qui sera dans... Alors, il y a différentes métaphores qui peuvent être utilisées, ou dans les strates, ou alors dans une figure qui se retrouve aussi chez Le Clésio, qui est celle du tourbillon, où absolument tout revient au même, mais en même temps est différent. Tu vois, on est dans une boucle qui bouge, et du coup, c'est une forme spatiale également. Donc, tu en as parlé tout à l'heure, spatialité, temporalité. C'est vraiment difficile de les dissocier. Et la narration, par la narration, quand on l'étudie, on retrouve aussi cette imbrication. Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais. J'aimerais bien que tu reviennes, si c'était possible, sur la figure de l'archipel comme une figure positive. Qui permettrait de rompre avec la logique centre-périphérie, puisque je vois ça quand on regarde le géographe, et quand on me dit centre-périphérie et archipel, je pense à deux choses. C'est la ville-archipel, avec le modèle de Los Angeles, donc une ville qui n'aurait plus de centre, mais qui serait une espèce d'archipel individuel, et l'archipel métropolitain mondial de Pierre Vess, qui est la mise en réseau des villes globales, donc... C'est deux échelles pour au contraire, un renforcement des centres de commandement par rapport à des périphéries et une accélération de la concentration des richesses aux mains d'individus dans un cas et territoirement autre. Donc, comment est-ce que, en littérature, l'archipel peut du coup devenir une figure positive qui permettrait de rompre avec ce système-là?
Je réfléchis. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer par rapport à Los Angeles?
Oui, c'est une ville qui n'a pas vraiment de centre historique, c'est le modèle américain classique,
oui.
Très étalé, avec plusieurs petites centralités. Et c'est Michael Dear en 2002 qui appelait ça le modèle du kéno-capitalism, comme un jeu de construction, comme si la ville n'était plus qu'un jeu de puzzle.
D'accord.
Et que chaque individu, en fonction de son identité, peut pratiquer la ville un peu n'importe comment, et comme si les lieux n'avaient plus d'unité entre eux, mais n'étaient plus qu'une succession d'éprouvés et de lieux superposés les uns sur les autres, mais sans vraiment d'organisation spatiale, sans périphérie.
Oui. Alors. En fait, ici, si j'ai parlé de la notion d'archipel, c'était pour outrepasser donc cette idée de centre-périphérie et qui induit toutes sortes de lectures dans le milieu de la recherche qui mènent, encore une fois, à une logique coloniale qui est de regarder qui je suis et regarder si l'autre me ressemble et puis je vais voir quelles sont les différences et puis je vais continuer à penser comme ça. Et cette idée d'archipel serait plutôt de cette façon-là, d'identité. Alors maintenant, si on considère alors, d'un point de vue géographique, comment ça pourrait se dérouler dans les textes, c'est ça?
Non, mais la figure symbolique de l'archipel comme étant une figure plus égalitaire, en fait, c'est ça que...
Je sais même pas si c'est égalitaire, ce serait... ce serait pas non plus neutre, ce serait vraiment moins hiérarchique. Voilà. On n'est plus dans une hiérarchie où il y a le centre et puis le reste, où il y a un certain jugement de valeur qui est apposé, mais alors c'est l'archipel en termes de connexion où pas tout se vaut, mais A va mener à B, qui mène à C, etc. Et on va pouvoir créer des connexions et à ce moment-là, ne plus voir comment est l'autre par rapport à soi, mais juste voir l'autre, en fait.
On a une autre question sur le même sujet.
Oui, moi aussi, je voulais rebondir sur quand vous avez prononcé centre, périphérie, archipel, et aussi quand, au fond, pour interpréter, vous avez eu besoin et de Foucault, et de Certeau, Et finalement, pas de Lucerteau, mais de Lefebvre. Non, j'ai dit Lefebvre déjà.
Oui.
De Foucault et de Lefebvre.
Oui.
Et je pense que, justement, la plongée dans la littérature, étant finalement. C'est aussi changer des mots. Changer les mots. Par exemple, moi, quand je regarde cette chose-là, je me dis, ce qui est peut-être le plus important, c'est ce mot-là. Effacer la mémoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, qui n'est pas du tout, qui n'existe pas dans notre pensée scientifique. Justement, dans notre pensée scientifique, on est tous avec l'histoire de patrimoine, d'identité, machin, etc. Alors qu'en fait, ce qu'ils nous disent, eux, de la même façon d'ailleurs qu'une cinéaste dont j'ai oublié le nom, qui parle de ce qui se passe au Chili, c'est que les gens, ils ont envie d'effacer la mémoire. C'est ça qu'ils veulent. Mm-hmm. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent ils veulent être libres de leur rage, etc. Et donc, ce que je pose comme question, c'est le rapport, justement, le rapport de la science ou de l'interprétation à finalement ce qui est dit là, ce qui est dit. Donc, il faut essayer quand même peut-être. Et non pas de remonter à nos mots, espace urbain, la production de l'espace, mais ça c'est du passé. Il faut qu'on aille à nos mots aujourd'hui, les mots d'aujourd'hui, les mots de demain, ceux qui vont finalement, de la même façon que Lefebvre. Bon, c'est pas que j'aime beaucoup Lefebvre, j'aime évidemment beaucoup Foucault et Surveiller et Punir, mais finalement, bon, est-ce qu'ils nous servent ? Ils nous servent, y compris aller aussi loin que la littérature ou que l'art, qui, comme l'a dit Edith, est quand même quelque chose d'anticipateur, quelque chose qui capte, mm-hmm. qui capte l'émergence, qui capte les choses qui ne sont encore pas exprimées, même y compris pour Proust, les choses qui ne sont pas encore exprimées. Est-ce qu'on ne doit pas essayer d'avoir un autre rapport entre, finalement, l'interprétation scientifique et finalement ce qui est parole, ou geste voilà, j'arrête.
Oui, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire qui sont extrêmement intéressantes. Déjà... Peut-être je me suis mal exprimée, mais je suis partie de Lefebvre et Foucault pour dire autre chose. Parce que effectivement, c'est une logique des années 70 et 70. Je traduis. c'est une logique passée qui, en tout cas, moi, me sert pour voir autre chose. Donc voir ce qui n'est plus. J'ai vu ça dans ma thèse. Je pars de là pour voir comment ça ne fonctionne pas, en fait, maintenant. Puisqu'on est effectivement dans des logiques qui sont complètement différentes. Je pense que là où ça devient intéressant par rapport à ce que vous venez de dire aussi, c'est que c'est aussi une logique, je pense, de ma propre expérience de chercheuse occidentale, de se référer aux sources des années 50, 60, etc., qui sont occidentales. Or, actuellement, si on regarde ce qui se passe du côté des intellectuels en Afrique, c'est surprenant, et ça arrive seulement aux portes de la France, de la Belgique maintenant, alors qu'ils mettent en place des choses depuis plusieurs décennies. Il y a une manière de penser qui est différente, avec un vocabulaire aussi théorique qui est différent, et ça commence à arriver dans les universités. Ce qui est intéressant et que j'aimerais étudier par la suite à ce niveau-là, c'est justement leur rapport au mouvement. Parce que si on regarde pour le moment en Occident, notre rapport aux frontières et à l'identité, c'est-à-dire qu'on a une identité parce que l'on pense. Voilà, on va essayer de définir notre identité par rapport à notre ou rationalité ou pensée. On va dire ça comme ça. Je ne cherche pas, et j'espère que c'était clair ce matin, à créer une dichotomie corps-esprit, pensée, rationalité, instinct. C'est pas du tout ça. Tout est bien mêlé. Mais en tout cas, ce que l'on retrouve, qui est une logique de pensée qu'on retrouve en Afrique, c'est que le rapport en mouvement, c'est l'être. Être, c'était en mouvement. Or, on applique aujourd'hui un modèle de pensée occidentale à ce continent, par exemple, avec des frontières géopolitiques qui ne sont pas des frontières qui ont été créées par les habitants de ce continent. Et donc, il y a un choc en ce moment par rapport à ces deux modèles de pensée. Et je pense qu'on va aller vers une perméabilité des deux. Il y a eu deux, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu deux ateliers de la pensée qui ont eu lieu à Dakar, et ça va continuer. Ces ateliers de la pensée ont une grande résonance en France et en Belgique, et ce sont uniquement des intellectuels issus d'Afrique. Avec bienvenue aux Européens, c'est bien sûr, les Européens sont les bienvenus, mais avec des modèles qui sont propres. Donc, je pense qu'il faut surveiller ce qui se passe de ce côté-là, au niveau des grilles de lecture.
Deux toutes petites questions, peut-être pour en choisir juste une, je ne sais pas. La première, c'est est-ce qu'il y a dans ces deux livres des manifestations d'affect, je vais dire très basiquement, d'affect positif? Est-ce qu'on peut, enfin, moi sur le terrain sur lequel je travaille, c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence qui fonctionne. C'est-à-dire que quand on est dans un affect très négatif à un lieu, quelque part, on est aussi d'une manière assez très ambivalente. Attaché, voilà, c'est un attachement quand même.
Ouais.
Est-ce que ça s'exprime dans ces ouvrages, dans ces romans? Première question. Et deuxième question, c'est peut-être juste si tu peux dire deux mots sur l'utopie cosmopolitique dont tu as parlé au tout début. C'est-à-dire, pourquoi l'utopie? Enfin, cosmopolitique, d'accord, mais utopie cosmopolitique. Si j'ai bien compris, c'est un mouvement littéraire, c'est ça?
Non. Pour répondre à ta première question, l'attachement, et c'est ça en fait qui est toujours ambigu dans ces textes, c'est qu'on est dans un endroit paradisiaque, avec une beauté luxuriante, et en même temps il y a cette violence. Et ça, de ce paradoxe-là, naît quelque chose de spécial. D'ailleurs, c'est la citation que je disais hein, de Natacha Apana, du fait que l'île est un radeau qui nous protège de la noyade, et en même temps un lieu d'enfermement. Et donc il y a toujours un lieu d'enfermement. Donc il y a toujours ces descriptions que l'on retrouve dans la plupart des textes mauriciens, entre un paysage magnifique, qui génère des émotions qui sont très, très positives, et en même temps, ce sentiment d'être épié. En fait, il y a une telle porosité entre paysage et, entre paysage et personnage qu'il est difficile de dissocier parfois l'un de l'autre. Et on retrouve des textes où le personnage se sent épié par le paysage, un paysage qui le regarde, qui devient lui. Donc il y a une sorte de métamorphose. C'est aussi la métamorphose dont je parlais tout à l'heure à propos du procès-verbal. On retrouve dans les textes mauriciens, et cela peut générer à la fois du bien-être et en même temps une oppression. Alors, en général, ce qui se passe au niveau des personnages, c'est qu'ils vont passer par une sorte d'initiation, de quête d'initiation par le paysage. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne sont pas adaptés au paysage. Ils marchent pieds nus, ils se font mal, ils s'écorchent, par exemple. Ils n'arrivent pas à comprendre le code, à la fois du paysage et de l'espace social qui a déjà cours là-bas. Et au fur et à mesure, ils vont s'adapter. Alors, vis-à-vis du social, ils vont essayer de faire profil bas, ils vont être dans un mode de survie. Et vis-à-vis du paysage, par contre, c'est une survie qui est beaucoup plus positive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils apprennent à marcher, en fait. Ils apprennent à gérer leur propre mouvement dans l'île et à faire en sorte que l'île soit de leur côté, soit leur ami, en fait. Donc ça, c'était pour revenir là-dessus. Par rapport aux utopies cosmopolitiques, c'est un nouveau projet de recherche que je mets en place, justement en m'intéressant aux littératures de langue française. Je ne dis pas littérature francophone pour dire les autres littératures que la littérature de France. Donc les littératures de langue française hors France, et plus particulièrement Afrique et de l'océan Indien, c'est que ces textes depuis une quinzaine d'années, il y a de plus en plus de textes depuis une quinzaine d'années qui proposent des utopies. Alors, ce ne sont pas nécessairement des utopies au sens de chimérique. On a utilisé ce mot plusieurs fois ce matin. Ce ne sont pas nécessairement des utopies au sens chimérique. C'est l'utopie au sens où l'a voulu Thomas More en 1516 avec la parution d'Utopia. C'est une critique, en fait. C'est-à-dire que pour qu'il y ait utopie, il faut d'abord qu'il y ait critique d'un modèle qui ne fonctionne pas. Alors, on va essayer de se projeter en se disant, d'accord, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? D'accord, ça pourrait fonctionner. Alors, je vais le mettre en place par la fiction. Et donc, la fiction vient aider la critique. c'est de cette façon qu'il s'agit d'une utopie. Donc ce n'est pas nécessairement chimérique. C'est ça qui est intéressant. Il y a de plus en plus de textes dans ce sens. Donc ce ne sont pas des utopies où on va lire, je ne sais pas, de la science-fiction à quelque chose de complètement irréaliste. Au contraire, ça se passe là maintenant. Et je t'en parlais hier à propos, par exemple, du livre de Waberi, qui est un écrivain djiboutien, qui s'appelle « Aux États-Unis d'Afrique ». On lit un texte qui pourrait se passer maintenant, c'est pas précisé, c'est tout à fait contemporain, et on se retrouve dans un modèle inversé où le continent africain est l'endroit où tout le monde voudrait être, c'est the place to be, et au contraire, les États-Unis et l'Europe, c'est un endroit que l'on souhaite fuir, et donc il y a une migration dans ce sens-là. Et donc en inversant les points de vue, on se rend compte de la situation actuelle. Voilà, l'utopie va permettre le changement de point de vue. Et ça, ce sont les types d'utopies cosmopolitiques auxquelles je m'intéresse.
Ça rejoint complètement la démarche que j'évoquais.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'elle peut être volontariste. Et nous, souvent, en prospective, puis quand on ne sait pas, on se met à écrire des textes. Et à ce moment-là, ce n'est pas le témoignage. C'est la force même de l'écriture
oui.
qui permet que
ah, oui.
On puisse imaginer ouais. moi, ce que j'appelle des futurs souhaitables et qu'il faut ensuite rendre possible.
Oui, ça a été d'ailleurs théorisé il n'y a pas très longtemps comme des fictions pensantes.
Bon. Merci. Merci.